I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonjour, nous voilà dans Capture Mag Hebdo du 17 mars et nous allons parler de Lost City of Z, de la Nintendo Switch et de Führer Apache, vraiment un programme extrêmement éclectique.
Comme toujours,
concocté par de formidables journalistes cinématographiques et vidéoludiques que j'accueille ce soir et donc il n'y en a que deux seulement, mais le meilleur, la crème de la crème.
Les voilà. Autres seront pas contents de l'apprendre, mais
Ils vont être bien obligés de se rendre compte
alors,
que
la crème de la crème, parce qu'alors il y a moi,
il y a toi, voilà, Stéphane,
qui suis la crème de la crème de la crème,
c'est ça,
et il y a mon acolyte Ernest Bordeaux qui a remplacé Arnaud Bordas,
bonsoir,
et qui est le plus grand critique français de Nice,
d'accord, voilà. Voilà.
Avec ses lunettes.
C'est pas mal. C'est pas
alors
mal.
Nice, dont j'ai appris récemment que tu as fait un ATG avec le frère d'un copain, deux frères qui tiennent un restaurant. Donc totalement par hasard, j'avais fait la pub, j'avais fait une blague.
Ah bon ?
Dans un des précédents podcasts de Capture. Le bistrot du fromager, c'est Greg Loubert.
D'accord.
Tu as reçu dans un ATG.
J'ai reçu qui est un spécialiste. Alors le frère est spécialiste de le 85, le super éthanol.
Ouais.
Et donc son frère est tu vas à son bistrot.
Ils tiennent tous les deux le restaurant.
Ah,
Hugo est au fourneau et Greg est en salle.
Voilà. Si t'as besoin d'un critique culinaire, Ernest Bordeaux.
Alors l'épisode que j'ai publié la semaine dernière que vous n'avez pas encore écouté, mais qui est avec des spécialistes de la nourriture, parce qu'il y a Thibaut Villanova de GastronoGeek. Et Mathieu Blanco, qui est un type qui relance un truc qui s'appelle les tartinades, qui est une sorte de pâte à tartiner, mais bio, même vegan, enfin un truc complètement bon pour la santé. Et voilà, un épisode passionnant, je vous assure. Il était passionnant, ça a duré 2 heures, je n'en pouvais plus. Bref. Bon, en tout cas, bonsoir Arnaud.
Bonsoir David.
On est content de te recevoir. Même si tu viens de loin, on est très content de t'avoir avec nous. Et nous n'avons ni Julien ni Rafik, mais on pense qu'ils reviendront bien un jour.
Bien sûr.
Et on les embrasse et on pense bien à eux.
On leur fait des gros poutous partout.
Tout à fait.
Bon, à Stéphane.
Toi, oui.
J'ai une petite annonce avant de démarrer. C'est à propos du cinéma Max Linder dans lequel je passe des nuits de temps en temps. Et la dernière où vous étiez là, les gars, vous étiez.
Moi, j'ai pas pu.
Non, toi, tu as pas pu, mais il y avait
là,
Stéphane.
Max Fury Road de
oui,
Black
c'est
and Chrome.
Et tout à
formidable.
Fait. On a passé le chef-d'œuvre de George Miller sur l'écran magnifique du Max Linder en Black and Chrome, hein, en version noir et blanc. Et il se trouve que ça a été un tel succès que la programmatrice du Max a décidé l'exploiter en salle pendant une semaine.
Ce que tu nous disais
la semaine
dernière.
C'est ce que je
disais
la semaine dernière, donc à partir du 22. Mais en fait, comme Trainspotting malheureusement ne fonctionne pas comme attendu, il se trouve qu'ils avancent d'une semaine le passage de Fury Road. Donc là, ça fait 2 jours que Fury Road est en salle depuis le 15 mars.
Non, c'est vrai.
Si, il est en salle depuis le 15 mars.
Oh punaise, je savais pas, je serais allé voir.
Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et donc, il va rester au moins 15 jours à l'affiche sur cet écran magnifique.
Alors, du 15 mars au 30
c'est
mars.
Ça,
ouais,
c'est ça, à peu près. Ouais. Et donc, je vous recommande chaudement, vivement, de manière totalement impérative.
Ouais.
D'aller revoir ce chef-d'œuvre au cinéma et si possible dans sa version Black and Chrome au Max Linder, franchement ça vaut le déplacement
carrément,
parce que hein, t'es témoin hein,
c'est
envoie le pâté
c'est
hein.
Magnifique.
Et pour un film qu'on ne devait pas avoir à la base sous cette forme là en France,
voilà.
Donc comme quoi les nuits au Max
et
sont
Julien
très
Dupuis.
Influentes
et Julien Dupuis
et Julien qui avait donné l'idée
qui a donné l'idée, voilà, donc la pub est faite et c'est de la bonne pub, j'en suis fier, donc allez Max Linder Fury Road, vous pouvez même commander vos places en ligne sur le site du Max Linder que vous trouverez facilement en googlisant tout ça. Voilà, on est parti, on fait un petit peu de... On travaille un peu, hein, quand
allez,
même.
Allez,
c'est parti. Alors, le The Lost City of Z, Stéphane, c'est
le,
quoi?
Le nouveau James Gray.
Le nouveau film de James Gray.
James Gray, réalisateur américain, très apprécié en France, qui d'ailleurs, en général, comment dire, alors pas sur, je crois pas sur ce coup-là, mais sur d'autres films, a même eu des capitaux français. Mm-hmm. Réalisateur de Little Odessa, mm-hmm. The Yards,
oui.
La Nuit nous appartient.
D'accord.
Qui a aussi fait Two Lovers et The Immigrant avec...
Marion Cotillard,
voilà.
Je crois qu'il avait produit et coécrit, il me semble, un film de Guillaume Canet, là, qui était le remake américain des Liens du Sang, là, je crois, non?
Oui, tout à fait, ouais, Blood Ties, effectivement, tout à fait. Et qui se lance un peu dans le film d'aventure, alors un peu à l'ancienne.
Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est qu'en effet, James Gray, réalisateur très sérieux, voire très, très, très sérieux.
Très austère, tu veux dire.
Presque austère. Mmh.
Mais là, en fait, c'est un peu une tonalité qu'il applique au film d'aventure. Alors, ce qui est très intéressant avec Lost City of Z, c'est que c'est l'histoire d'un explorateur anglais du début du siècle, enfin du début du siècle précédent, du début du 20e siècle, qui a cherché, en fait, qui est un cartographe à la base et qui a cherché à trouver une cité perdue au fin fond de l'Amazonie.
Il a vraiment existé, cet homme.
Il a existé, ouais. C'est Percy Fawcett. Qui est ici interprété par Charlie Hunnam, qui est le héros de Pacific Rim,
mmh.
et de Sons of Anarchy, la série.
C'est notre référence.
Voilà, et qui est assez bien exploité, en fait, je trouve, dans le film, parce que c'est quand même un acteur un peu limité, je trouve, par certains côtés, quoi. Et qui est vraiment bien dans ce rôle-là. Et c'est un film qui traite, en fait, de son obsession, c'est-à-dire cette obsession de trouver une cité perdue au fin fond de, une cité ancienne, hein, perdue au fin fond de l'Amazonie. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui ressemble à ces films d'aventure comme il se faisait il y a encore 20-30 ans, à la Greystoke, aux sources du Nil, ce genre de film, en fait, tourné en décor naturel, tourné en pellicule.
À la poursuite du diamant vert.
Alors pas tout à fait, non, justement, non, mais c'est film très sérieux et c'est reconstitution historique, tu vois.
Fitzcarraldo.
Voilà, des vraies reconstitutions, en fait, qui voilà, et c'est un des gros paris du film. Et puis bon, James Gray, c'est un cinéaste new-yorkais, donc qui sort complètement de son élément, en l'occurrence, là, en faisant ce film-là, quoi.
T'es sûr qu'il a pas tout fait sur fond vert et qu'ils ont incrusté ensuite?
Ah non, et je peux te dire que ça se voit, hein, ça fait vraiment une différence. Photo de Darius Kondji.
Ah bah voilà.
Voilà, donc c'est très très soigné, c'est vraiment très très travaillé, très bien écrit. Voilà, le souci que j'ai moi personnellement avec le film, c'est que c'est un film qui, comme tu l'as dit, en fait, est un peu austère justement dans sa façon d'aborder le sujet, quoi. C'est un film social aussi, par mm-hmm. certains côtés. C'est un film qui traite du fait d'avoir un rang et de s'y tenir, des attentes qui sont liées à ton nom. Donc ça, c'est très lié à la société anglaise de l'époque. Et par exemple, ça fait partie des choses que le film traite, à mon sens, un peu trop. À côté de l'aspect anthropologique du film qu'il aurait pu contrebalancer. C'est-à-dire qu'un des points intéressants, c'est que il part en voyage, par exemple, assez régulièrement. Il laisse sa famille derrière lui pour essayer de trouver cette ville perdue, en fait, qui s'apparente à une cause perdue pour la plupart des gens qui le financent. Le truc, en fait, c'est que il n'y a pas cet aspect anthropologique. On le voit, en fait, lui-même arriver à créer vraiment le lien avec les gens du coin, qui sont considérés comme des sauvages, etc., etc. Donc, le souci du film, c'est qu'il y a, cette approche un peu, je trouve, encore une fois, c'est un film qui est très bien fait, très soigné, prenant même par moments. Mais il y a cette espèce de distance qui peut y avoir parfois, je trouve, dans son cinéma. Et ce qui est très étonnant, en fait, c'est que, alors moi, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup dans l'absolu. J'ai découvert déjà en salle à l'époque avec Little Odessa, qui est, je trouve, une assez belle tragédie. Et quelque part, en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve que c'est son meilleur film pour l'instant de tout ce que j'ai pu voir, quoi. Little Odessa.
Little Odessa.
Voilà, qui était un drame familial assez resserré, quoi. et en même temps un polar avec Tim Roth.
Très dur. Hein.
Ouais, c'était assez dur, et assez, mais austère, mais aussi en même temps très très lyrique, très porté par cette la volonté en fait de faire une vraie tragédie en fait grecque.
Tragédie familiale.
Voilà, familiale au milieu d'un petit quartier russe de New York. C'est très hivernal. Et en fait, c'est un film qu'il a plus ou moins refait deux ou trois fois derrière. En tout cas, il en a repris des bribes avec The Yards, il en a repris des bribes avec La Nuit nous appartient. Et avec les mêmes cheminements, les mêmes logiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un film familial, Lost City of Z. On y trouve d'ailleurs, c'est son fils est interprété par le futur Spider-Man de Marvel. Qui est, je vais y arriver, Tom Holland.
Oui, qui avait été révélé par The Impossible.
Tout à fait, ouais, de Bayona, et qui là aussi est très bien, hein, ceci étant dit dans le rôle, quoi. Et c'est un film qui prend le temps en fait de traiter. C'est évident que c'est quelque chose qui le travaille en fait, toute cette logique familiale derrière le sujet, le fait de devoir abandonner sa famille pour aller soigner son obsession, on va dire, en fait, voilà, trouver ce truc. Mais j'ai envie de dire le souci, c'est-à-dire que c'est un très bon, je trouve, cinéaste d'ensemble, James Gray. C'est moins un moins bon cinéaste pulsionnel sur le moment. C'est-à-dire que par exemple, si on prend une scène comme La Nuit nous appartient, si tu te rappelles de cette scène de poursuite sous la pluie là, qui était au milieu du film, tu vois, qui était assez tendue par exemple, en fait, qui fonctionnait très très bien dans le cadre de la séquence, parce qu'en fait, il y avait un enjeu familial très fort. Elle était traitée limite comme un drame en fait, cette scène. Et à côté de ça, la scène finale aurait dû plus être traitée comme justement la scène dont tu parles dans Les Bons Bouts, la fusillade, aurait pu être traitée comme un film d'action pur, on va dire, filmé comme un film d'action pur. Et c'est détourné justement comme un drame. Et du coup, je trouve que ça perdait de son impact, ça perdait de sa force. Là, j'ai un peu le même problème dans Lost City of Z, en fait. Il y a des scènes comme ça où tout ce qui aurait dû être travaillé au corps, en fait, dans les séquences pour qu'on comprenne complètement les enjeux, sont vus d'un rapport un peu extérieur, d'un rapport un peu, je te fais, cadre large, plan moyen, gros plan, enfin vraiment la gamme basique, en fait, pour bien couvrir la scène et avoir ce qu'il faut, quoi. Et,
le film est assez long, 2h20.
Oui, il y a quelques longueurs, on va dire, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même un film solide. Moi, je conseille en tout cas
d'aller
le voir, parce que c'est assez rare finalement de voir ce genre de film aujourd'hui au cinéma.
J'ai une autre question pour toi. Je vois qu'il y a Robert Pattinson au casting.
Ah oui.
Non mais c'est intriguant, parce que c'est un personnage qu'on a l'habitude de voir dans un certain physionomie de film. Enfin, oui, même s'il a changé avec Cronenberg.
Oui, oui, il se diversifie pas mal. Il essaie de changer son image qui ne supporte plus de vampire.
Ouais. Ce qui est pas une mauvaise chose. Hein. Et comment est-il dans le film?
Il est fonctionnel. Ouais. C'est un peu comme Charlie Hunnam, le souci de ce genre de montage financier, c'est que c'est des films qui existent parce qu'ils ont des noms importants, parce que Charlie Hunnam, il a fait Pacific Rim, Tom Holland, il est dans le futur Spider-Man, et Pattinson, il a fait Twilight. Donc du coup, en gros, c'est un film qui serait fait dans 5 ans ou il y a 5 ans, ça serait un casting totalement différent, parce que c'est des acteurs qui ont une certaine valeur sur le marché. Et qui du coup en fait peuvent se permettre du coup grâce à leur potentiel financier, enfin potentiel sur le marché, peuvent faire financer un film comme ça qui est un peu un film du milieu, qui est pas un très gros budget mais qui est pas non plus un petit truc. Donc voilà, donc reconstitution soignée, lumière à tomber par terre. Hein, enfin, c'est un des grands trucs, mais très belle écriture aussi. Voilà,
pas grand chose à reprocher alors a priori.
Une distance par rapport, c'est-à-dire que t'as l'aspect anthropologique qui aurait pu être vraiment beaucoup plus soigné, qui aurait pu rendre le film vraiment fascinant à mon sens. C'est-à-dire que l'obsession du personnage ne passerait pas uniquement par sa perte. Ce qu'il perd au pays et sa volonté de redorer le blason de sa famille, mais aussi d'expliquer pourquoi, quand il se perd justement dans la forêt, quand il se perd à remonter les rivières et les fleuves, en fait, pourquoi il fait ça, en fait, à craindre les maladies, à craindre les choses, pourquoi il fait ça. Et c'est le truc, je trouve, qui manque, parce que c'est son amour, en fait, pour cette nouvelle terre, en fait, qu'il essaye de trouver. Mmh. C'est ce qui manque, je trouve, dans le film, quoi.
Arnaud, tu voulais dire un truc?
Non, après, bon, moi, j'ai pas vu The Lost City of Z, mais je trouve que James Gray, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est que c'est un cinéaste qui est clairement pas dans le sens du vent, quoi. C'est-à-dire, moi, je me rappelle que Little Odessa, c'était clairement un film qui jurait à l'intérieur du polar ricain des années 90,
fait,
hein. Qui était, ouais, à l'époque, il faut s'en rappeler, hein, on était en pleine euphorie tarantinesque. Ouais. Donc, c'était très fun, beaucoup, les films d'action, les polars. Comme
avec
ça.
Un acteur de Tarantino, d'ailleurs. Justement,
voilà,
quoi,
tout, hein, à fait. Hein. Et lui, il débarquait donc avec ce film, comme on a dit, très dur, très noir, très austère, quoi. Et là, c'est pareil, quoi. Lost City of Z, encore une fois, que je n'ai pas vu, mais des films d'aventure et ce sous-genre du film d'aventure qui est le film d'explorateur, il y en a quasiment, enfin, c'est pas quasiment, il y en a plus du tout aujourd'hui. C'est quasiment un ovni, là, de voir un film comme ça sortir maintenant en 2017 au cinéma. Donc, rien que pour ça, moi, je trouve c'est quelqu'un qui
choisit. C'est couillu.
Ouais, il choisit pas forcément la facilité. Je pense qu'il essaie simplement de faire ce qui lui plaît. Voilà.
Bah, très bien.
C'est louable. Voilà.
Bon, bah, alors si, enfin, on va vous encourager à aller voir ça au cinéma, ça serait bien. Malgré c'est tout. Déjà sorti depuis 2 jours, ouais. Donc il faut se dépêcher. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Et je reste avec toi, mais Stéphane, oui, pour parler ne pas parler de cinéma, mais parler de la nouvelle console de Nintendo, la Switch.
La Switch, bah, j'étais pas parti pour en parler, donc je vais.
Qui remplace la Wii U.
Ouais, qui remplace la Wii U, qui n'a pas remplacé la Wii apparemment pour la plupart des gens, puisque ça a quand même été un four, alors pas un four historique comme Nintendo a pu en connaître avec la Virtua Boy dans les années 90. Hein. Donc là, le truc, c'est que la Switch, c'est un carton.
Pour l'instant.
Aujourd'hui, pour l'instant. Elle est sortie depuis quelques jours au moment où on vous parle, hein, 2 semaines. Et le truc, c'est un carton qui est rassurant pour Nintendo. À la fois conceptuellement, c'est-à-dire que c'est un concept qu'on peut comprendre, un concept de console, parce que c'est ça aussi, Nintendo fonctionne avec des concepts de console. La Virtua Boy, c'était un concept. La Wii, c'était
un concept. La Wii U aussi, d'ailleurs.
La Wii U, c'était un concept, mais c'est un concept qui est un peu étrange, un peu bizarre, parce que tu sais pas trop si, c'est une extension de la Wii. HD, tu vois, tu sais pas trop à quoi. Enfin, souvent certains jeux, en fait, surtout de third party, oui, en fait, ne fonctionnaient pas avec
Il y avait déjà l'histoire de la tablette qui se détachait de la console, alors d'une manière un peu différente avec la Wii U, mais
c'était... tu peux pas jouer à la. Alors la différence avec la Switch et je vais faire une précision. La différence entre la Switch et la Wii U, c'est que la Wii U, c'était une tablette avec un écran que tu pouvais pas sortir de chez toi, en fait, vraiment, en fait, c'était pas, ou alors il fallait faire une espèce de manip un peu bizarre.
Alors,
et la plupart
là,
des jeux, la
là,
plupart des jeux,
avec, là.
Voilà, alors que la plupart des jeux fonctionnent pas avec moi, là, j'ai la Switch, avec moi, et c'est clairement une console nomade. C'est-à-dire que tu la branches, sur ta télé, très rapidement, très facilement, et tu joues sur grand écran. Tu reprends ta partie sur ta télé, en fait, voilà. Et en même temps, tu pars dans le métro et tu veux continuer ta partie. Alors bon, sur les gros jeux qui sortent là comme Zelda,
Le
confort télé est quand même plus.
C'est le jeu qui va faire vendre la Switch. Alors étonnamment, pas étonnamment d'ailleurs, Nintendo sort sa console nue, c'est-à-dire sans aucun bundle, alors que c'était plutôt l'habitude des autres, de ses concurrents. Et en gros,
Pas un party game vendu avec, c'est-à-dire qu'à l'époque de la Wii, t'avais
petits jeux d'essai, ouais, bien sûr. Alors que là, t'as rien.
Non, t'as rien.
Il faut tout s'acheter.
Voilà, exactement.
Et alors, même pour la poignée, alors, parce que vous avez vu qu'il y avait cette espèce de concept de poignée qui s'en retire, qui se met sur
le
la console.
Joy-Con.
Voilà, ou que tu remis sur un truc, enfin bref. Donc cette espèce de poignée modulaire. Mais si tu veux un vrai joystick de console type Xbox, tu dois sortir 60 euros pour t'acheter un joy supplémentaire.
Il y a une manette qui est plus proche, en fait, des habitudes des joueurs console de salon type Xbox et PS4.
Elle
est pas donnée. Par contre, le truc, c'est que si tu détaches la Joy-Con de ton écran, alors ça, on est dans la radio, on fait du podcast, donc c'est un peu compliqué,
oui,
d'expliquer
de vous
tout
le
ça.
Montrer.
Sans, voilà.
Mais vas-y, explique.
Si tu détaches, en fait, ça de ton petit écran, de la console en soi, on va dire.
Oui,
tu
les prends dans les mains.
Tu les prends dans les mains, tu peux y jouer comme les Wiimote. Tu peux aussi les mettre sur un socle, en fait, qui fait office de manette. Et j'ai pas testé la manette arcade, on va dire. Pour l'appeler, je sais pas si c'est ça le terme, mais la manette de jeu, je l'ai pas testé, l'autre manette de jeu, mais ça fonctionne très bien quand même. Hein.
Ouais,
c'est très fonctionnel, ça marche bien. Ce qu'il faut dire, c'est que l'expérience de jeu est aussi agréable, moi je trouve, hein, sur grand écran et petit écran.
D'accord.
Donc du coup, même si évidemment la taille fait que bah, un jeu comme Zelda, c'est ce que j'allais dire, tu y perds quand même.
Bien sûr.
De l'y jouer sur petit écran.
Oui, parce que alors c'est la première console HD ou la Wii U était déjà
non,
HD.
Non, la Wii U était déjà HD. Ouais.
Enfin là, en tout cas, c'est une console HD. On est.
Oui,
c'est
oui, tout
sûr.
À fait. Ouais.
Pas 4K, hein, les 2K.
Non, 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 ouais, ouais. D'accord. Et le truc, c'est qu'en fait, même si je pense que tu y perds donc du coup en jouant à Zelda, pour d'autres jeux que je t'ai fait tester là, en l'occurrence
oui.
leur
espèce de Wipeout qui
voilà
est...
qui s'appelle. Attends, je la rallume parce qu'elle s'est éteinte évidemment juste pour me faire chier.
Mais non, mais c'est
voilà.
Normal, elle s'est éteinte parce qu'elle s'est mise en veille.
Voilà, Fast RMX.
Ah oui, alors Fast RMX, pour ceux qui connaissent Wipeout, qui aimaient Wipeout sur PS, franchement, c'est exactement le même. Et c'est ouais. Incroyable à quel point ça se ressemble.
Ceci étant dit, la différence étant que c'est un jeu que tu achètes sur le store, Nintendo Store, en fait, voilà, pour.
C'est un jeu des maths.
Voilà, c'est un jeu des maths, alors que, bon, Wipeout, c'était la grosse sortie de la PlayStation
ouais,
à l'époque, la PlayStation 1, quoi. Et.
Jusqu'à la 3, hein, ça a été. Encore, même sur la 3, ça a été une très belle sortie sur la PS3.
Il me semble que c'était du démat aussi.
Ah, peut-être. T'as peut-être raison.
Ouais. Bah, ils en ont sorti aussi sur PlayStation Vita, enfin, etc., etc.
Oui,
sur PSP.
Sûr.
Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi sur la Switch, c'est qu'il y a le line-up pour l'instant est pas fabuleux.
Non.
C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de jeux. Il y a évidemment il y a Zelda.
Bah, oui.
Donc et Zelda, comment dire, t'as pas mal de
Mario Kart arrive.
T'as un Mario Kart qui est un remake en fait du Mario, enfin une nouvelle version du Mario Deluxe, enfin une Mario Kart 8 en fait qui était sortie sur Wii U je crois.
Mm-hmm.
Donc c'est une version Deluxe. Bon après, je pense que ça restera très parfaitement jouable. T'as un party game One Two Switch qui est pas,
ouais, qui rappelle les petits jeux de la Wii et qui, ouais, c'est pas génial. Hein.
Qui est pas formidable.
Non.
Il y a un Mario qui arrive.
Oui.
Un vrai bon Mario que j'aime bien appeler GTA Mario parce que ça se passe en ville, voilà, qui arrive. Alors il y a pas de date précise. Et puis il y a une offre sur le Nintendo Store pour des petits jeux d'arcade. Il y a des jeux Neo Geo qui ressortent,
oui,
voilà,
ah
bon,
oui,
des petits
ah
trucs
oui.
Comme ça à 7-8 francs, 7-8 euros, pardon. J'allais dire 7-8 balles en fait. Et voilà. Mais bon, après c'est pas une console qu'on a acheté pour jouer à ces jeux-là. De toute façon, il faut savoir un truc avec Nintendo, c'est que pour moi, hein, l'intérêt chez Nintendo, c'est de jouer aux jeux Nintendo.
Mm.
Donc, c'est vraiment de jouer aux jeux first party.
Bien sûr.
Donc, là-dessus, Zelda, c'est des heures et des heures. En plus, c'est une vraie killer app. C'est-à-dire que,
c'est
en
très
gros,
beau.
Voilà, c'est magnifique. Il sort aussi sur Wii U parce que à la base, il était destiné à la Wii U. Faut quand même rappeler que c'est le premier Zelda original depuis 6 ans, peut-être.
C'est possible.
Voilà.
Tu sais mieux que moi.
Voilà. Non, mais c'est important parce que même s'il y a des ressorties régulières, en fait, des versions précédentes.
Bien sûr.
Là, maintenant, on est quand même dans une nouvelle aventure. Breath of the Wild. Apparemment, moi, je n'ai pas touché la version Wii U. Paraît-il qu'elle est vraiment inférieure à la version Switch. Donc, c'est aussi une raison en fait de basculer.
Bah, peut-être que tu peux aussi vite fait, par rapport à ça, nous parler de la technologie qu'il y a dans la Switch. C'est-à-dire que c'est quand même plus puissant que la Wii U. Je sais pas, j'ai pas regardé les spécifications techniques, mais ça a l'air d'être une jolie petite bête quand même.
Oui, après,
ce qui
je pense
est rare
que c'est
chez
pas.
Nintendo,
ouais, mais c'est pas le truc parce que je pense qu'il faut qu'ils arrivent à faire tourner les deux. Apparemment, t'as une vraie baisse de framerate entre
l'écran avec
la
base,
voilà, elle tourne différemment. Après, moi, honnêtement, j'ai pas trop vu l'indistinction. Sur quand l'écran est réduit comme ça, j'ai pas trop vu l'indistinction. J'ai testé. Disons qu'il y a des jeux, en fait, c'est surtout en termes de lifestyle, la logique, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, il y a des jeux qui, de toute évidence, passeront plus facilement sur le grand écran parce que t'auras plus envie d'y jouer. Et je pense que le GTA Mario, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai pas le titre qui arrive là, qui sortira à la fin de l'année. On en reparlera peut-être dans un podcast futur. Ou le Zelda, il faut y jouer sur grand écran. Et après, les One to Switch, les jeux Neo Geo, les trucs comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Sur un petit écran dans le métro, quand tu te déplaces, etc., etc., ou quand t'es en voyage, je sais pas, dans l'avion, quoi. Mais
l'autonomie, t'as pu un peu tester ou pas trop?
Bon, apparemment, c'est pas énorme, hein. C'est 4-5 heures, donc si t'as un avion longue distance.
Super Mario Odyssey, c'est le
Super
nom.
Super Mario Odyssey, merci, ouais.
De la version.
Ouais. Non, l'autonomie est apparemment dans la moyenne, mais à mon avis, ça changera.
Alors, j'ai vu des petits jeunes malins qui, comme la connectique est USB-C, qui devient un peu le standard de toutes les connectiques modernes sur des appareils électroniques, qui branchaient avec un adaptateur vers USB des batteries batteries externes, les espèces de batteries qu'on peut travailler pour son téléphone, et ça marche. Donc d'accord, on peut arriver à recharger, enfin maintenir la charge de sa Switch avec une batterie externe et de qualité.
Tu vois, tu me l'apprends, comme ça je pourrais éventuellement me...
Tu peux demander à l'ami Gorkab qui qui s'occupe de CGM, un excellent podcast sur l'image de synthèse, d'accord, qui tweetait des photos là-dessus. Voilà. Salut Gorkab, je le salue. J'en profite pour le saluer. Un dernier truc sur la Switch, c'est l'interface, moi, que je trouve quand même très spartiate, l'interface utilisateur, contrairement à pas mal d'autres consoles où tu peux accéder à Netflix, YouTube, enfin maintenant sur la PS4, voire sur les Xbox, enfin ce genre de trucs. Nintendo, ils ont fait un choix radical de faire une interface qui est presque austère à ce niveau-là.
Mais je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont une espèce de logique où ils gardent un peu leur précaré à eux, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont raison. Quand tu joues est-ce que tu parles d'interface, compréhension de l'interface, ou est-ce que tu parles de... Parce que moi, par exemple, la PS4, j'ai énormément de mal avec l'interface.
Ouais.
J'ai du mal à me retrouver dans les choses.
Okay.
Assez régulièrement, au lieu d'éteindre une application, j'ai tendance à l'effacer. Donc, ça me semble pas logique, en fait, que tu doives effacer. Le premier truc qui apparaît, c'est effacer l'application plutôt que de l'éteindre. Mais bon, enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Là, je trouve que la prise en main est assez rapide.
Ah bah, il y a pas plus simple. Choses,
voilà, non mais sur la Switch, hein, j'entends.
Oui, mais il y a pas plus simple.
Voilà, il y a pas plus simple. Moi, je suis content que Nintendo ne cède pas aux sirènes. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec la Wii U, hein, c'est-à-dire qu'ils t'avaient vendu, on va vous mettre Assassin's Creed, on va vous mettre tous ces jeux-là, etc., etc. Moi, j'ai pas trop d'intérêt à jouer sur Nintendo à Call of Duty ou à Assassin's Creed, donc j'ai pas trop d'intérêt de la même manière à regarder Netflix dessus.
Pour être un côté pratique.
Oui, on a tellement d'écrans maintenant, si tu veux, on a quoi qu'il arrive, on aura sur notre téléphone ou notre iPad, on va dire, si tu veux. Ceux qui sont évidemment
multi-connectés.
Voilà. Et je pense que c'est aussi ces gens-là, oui, à laquelle la Switch s'adresse, hein, dans l'absolu. C'est bien en fait qu'ils arrivent à ramener ça au strict essentiel. Moi, j'espère surtout qu'ils vont se concentrer sur des sorties de jeux, parce que le Mario sans date pour l'instant. Voilà, il y a un Splatoon 2 qui était Splatoon, c'était un gros succès multijoueur, chez Nintendo sur la Wii U, assez fun, assez coloré. Ils sortent la suite là cet été. C'est leur grosse sortie de l'été. Après, là-dessus, t'as des éditeurs tiers qui ont sorti un Bomberman. Ça, je pense que ça s'adapte très bien.
Bah oui.
Tu vois, il y a Puyo Puyo Tetris qui va sortir là, vers le mois d'avril. Donc, c'est un Tetris. Ça, c'est des jeux très bien pour la Switch dans l'absolu quand t'es en transport. Maintenant, en termes de, jeux first party, j'espère qu'ils vont faire un peu plus que ce qu'ils avaient pu faire sur Wii U. Et sortir un peu plus de jeux. Moi, c'est sur ça que je veux, que j'aimerais qu'ils se concentrent dans l'absolu, en fait. Et ne pas se baser sur le succès, pour l'instant, de la Switch, et proposer 4 vrais bons jeux par an, ce qui serait quand même, à mon avis, assez léger, quoi.
Il y a une douzaine de jeux, là, qui est sorti actuellement.
C'est peu, hein, pour un line-up de sortie, ouais.
Et il y a une sortie prévue fin mars encore. En avril, pour l'instant, il y a le Mario Kart 8 Deluxe qui devrait arriver fin avril.
Mais c'est des portages, hein. Il y a pas mal de portages. Il y a AM Setsuna,
Il y a un Sonic qui est prévu au printemps. On attend. Il y a pas mal de jeux qui sont prévus pour l'année. Donc,
oui, moi je parlais vraiment des first party, c'est-à-dire les jeux Nintendo.
Ouais, ouais, ouais.
Moi c'est sur ça que j'aimerais qu'ils se concentrent, parce que comme tu le sais bien, voilà, les jeux Nintendo c'est quand même d'une très grande qualité,
ouais, ouais.
Hyper fun à jouer. Et moi, quand j'achète une console Nintendo, c'est pour jouer aux jeux Nintendo, c'est pas pour jouer, encore une fois, Call of... Tu vois, là, il sort Skyrim.
Oui, oui.
On en avait fait une émission, un bonus, tu vois. Moi, Skyrim, c'est sur ma télé, grand écran, machin.
Ouais,
certes, ça passera, je pense, très bien, tu vois. Mais bon, c'est un jeu qui a 5-6 ans, déjà. Mm-hmm. Et puis, pour moi, l'intérêt, c'est de sortir... C'est pas prévu Red Dead Redemption 2 dessus, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais personnellement, moi j'y joue sur Xbox ou PS4, tu vois, ce genre de jeu, quoi. C'est pas voilà.
Bon.
Donc
en tout cas, toi tu recommandes. C'est une console de 370€, je crois.
Bah, c'est 300€ la console, et puis après quoi qu'il arrive, si tu veux un jeu dessus, et puis le jeu que tu voudras normalement, c'est Zelda, hein.
Donc c'est 60€ de plus.
Bah, c'est 60€ de plus, voilà. Donc effectivement, comme elle arrive un peu cunue, c'est un peu compliqué. C'est difficile de la recommander comme ça. Si vous êtes des aficionados de Zelda, il faut foncer, c'est sûr. Maintenant, après, ça reste pas donné, et c'est pas encore le meilleur deal, j'imagine. Mais bon,
Ça t'a convaincu, toi, personnellement?
Bah moi, oui. Enfin, là, moi, j'attendais une console de qualité avec des jeux. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup la PlayStation Vita,
oui.
Et qui est une très belle console, voilà. de très bonne qualité.
Mais un peu vide.
Mais il y a rien dessus. Ou alors, si tu veux jouer à des RPG japonais, mais enfin ouais. Voilà, c'était pas trop mon truc. Donc voilà.
Ni celui-là.
On a largué Ernest Bordeaux, qui ne comprend
non,
plus
en
rien.
Cas, en tout cas, moi, tu me l'as passé. J'ai eu entre les mains, mais c'est pas la première fois. J'ai déjà eu la semaine dernière.
En la moi.
C'est une très belle console, elle est bien finie, elle est jolie. Alors, voilà. Il paraît qu'il y a quelques petits problèmes techniques. J'ai vu passer des news sur le Joy gauche, je crois qu'il y a des petits problèmes de réception. Alors, les mecs proposent de faire des modifs dans son propre joystick. Enfin bref, tout ça va s'améliorer avec le temps.
J'ai pas eu de soucis. Puis honnêtement, à chaque nouvelle sortie de console, t'as des mecs en fait qui l'ouvrent. Enfin, moi, il y a des mecs, je ne comprends pas pourquoi ils achètent leur console pour la péter le jour de la sortie. Quoi. c'est un truc.
Bon, c'est un bel objet. Il y a pas à dire. C'est un bel objet. Ils se sont pas foutus de la gueule du monde. C'est une belle console bien finie.
Ils avaient intérêt à se rattraper après la Wii U. C'est surtout ça. Quoi.
C'est ça. Bon, bah très bien, bah merci Arnaud, pardon, merci Stéphane.
C'est Ernest Bordeaux.
C'est Ernest Bordeaux, ça va être son tour.
Fini,
là.
Oui.
Arnaud Bordas.
Lui-même.
Parle-nous de Fureur Apache.
Voilà, alors rien à voir avec ce dont vous venez de parler.
Avec beaucoup de passion, hein, vous l'avez senti, hein, on aimait ça. Hein.
Voilà, donc maintenant on va basculer dans les années 70, c'est dans le domaine du western, effectivement, comme tu le dis, avec Fureur Apache de Robert Aldrich avec Burt Lancaster, qui sort en Blu-ray chez Elephant Film le 15 mars.
Très bien.
Voilà.
Donc il est sorti.
Donc il est sorti. Qui est un véritable bijou du western. Un peu certes méconnu.
Bah, totalement, je le connaissais pas. Pourtant, bah, j'adore le western.
Ah, c'est un très très grand western. Le truc, c'est vrai que c'est un western de 1972.
J'avais 4 ans.
Quand on évoque le.
J'ai dû le voir.
Quand on évoque le western de cette époque-là, en général, il y a des grands titres qui viennent à l'esprit comme Little Big Man, comme José Wayne sort la loi, La Horde Sauvage, bon c'est 69 La Horde Sauvage, mais ça appartient à cette période-là.
On n'est pas loin.
Il n'y a pas de Garrett et Billy Kidd aussi, de Peckinpah toujours, Jeremiah Johnson, enfin voilà, tous ces films-là, et qui sont en général des westerns pour la plupart pro-indiens, quoi, qui était un sous-genre du western assez en vogue à cette époque-là. Alors Fureur Apache, il dénote complètement dans ce cadre-là, il s'est d'ailleurs fait violemment attaquer à sa sortie, mais Aldrich, qui était un cinéaste non pas contestataire, mais quelqu'un qui avait un tempérament bien trempé, une vision assez bien précise de l'être humain, a souvent vu ses films être attaqués comme ça. Mais là, c'est vrai que le film était anachronique, on va dire, parce que
qu'est-ce que tu veux dire ?
Parce qu'il y avait une manière de dépeindre les Indiens sans phare, et notamment le film est très violent, très dur, notamment dans les meurtres ou les tortures auxquelles il se livre. Hein, il y a vraiment des scènes de torture. À un moment, ils attachent un fermier à un arbre et assis, et ils lui brûlent les parties. Après, ils lui mettent la queue d'un chien dans la bouche. Enfin, on découvre le cadavre, mais c'est horrible. Hein, c'est très graphique quand même. Hein. Bref, voilà. Il y avait, et donc on a taxé Aldrich de racisme, évidemment. Et alors, c'est pour ça qu'on va voir que c'est un petit peu plus subtil que ça, évidemment, comme d'habitude avec Aldrich, parce que le personnage du jeune officier qui mène le groupe, là, les cavaliers à la poursuite d'Ulzana, à un moment, c'est un personnage qui d'abord est dans la compassion vis-à-vis des Indiens.
Ulzana, c'est le chef indien.
C'est le chef Apache.
C'est ça. Oui.
Et ce jeune officier, il est dans la compassion vis-à-vis des Indiens au départ, et au fur et à mesure qu'il va tâter le terrain comme ça et voir tous les meurtres que Ulzana laisse derrière lui, il va basculer beaucoup plus dans le ressentiment. Et à un moment, quand il voit ces hommes se jeter sur donc les soldats américains se jeter sur le cadavre d'un Apache et le dépouiller et l'humilier physiquement, comme les Apaches ont pu le faire avec les soldats américains, le jeune officier s'énerve quand même et leur dit « Arrêtez de faire ça, vous les enterrez comme des chrétiens ». Et Burt Lancaster, le qui joue le personnage donc de l'éclaireur, vient le voir à ce moment-là et lui dit quelque chose de très important. Il dit « Qu'est-ce qui va pas, lieutenant ?» Et il dit « Vous êtes en train de découvrir que nous autres pouvons être aussi sauvages que les sauvages que nous combattons. Donc voilà, je pense que ça, c'est une réplique importante dans le film.
C'est ce qui fait que le film n'est pas complètement anti-Apache.
Mais il n'est ni anti-Apache, ni anti-cavalerie américaine. Le truc, c'est que c'est la vision d'Aldrich, qui est une vision qui remet un peu la balle au centre, d'une certaine manière, mais en fait, en renvoyant les gens dos à dos, et en disant, en fait, l'être humain est comme ça. Et ça, ça a toujours été le propos d'Aldrich. Aldrich, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films polémiques, mais dans le propos de Führer Apache, c'est le même finalement que les 12 salopards, quoi. C'est-à-dire la guerre change les hommes, quels qu'ils soient, qu'ils soient américains ou allemands, ou qu'ils soient indiens ou américains, et elle les change quoi qu'ils fassent, quoi, et ils n'en sortent pas indemnes. C'est cette vision profondément lucide et réaliste qui a fait que dans des périodes un petit peu épineuses, un petit peu polémiques, il s'est forcément retrouvé confronté à la vindicte d'autres personnes. Alors là, le truc, c'est que le film était en avance, et d'ailleurs le film était en retard, on va dire, puisqu'il
en avance ou en retard,
Forrest? Non, il était en retard d'une certaine manière, parce que c'est ce que je disais au début. Il a débarqué dans une période où il y avait un western aussi comme Soldat Bleu, qui était un western très violent aussi et qui était profondément pro-indien. Donc ça faisait bizarre un peu quelqu'un qui débarquait avec un film comme Führer Apache à cette époque-là. Mais ce qui est marrant, c'est que des années avant, Aldrich avait été un des premiers avec Bronco Apache, qui était aussi avec Burt Lancaster, c'était un des premiers films au début des années 50 vraiment pro-indien. Et qui d'ailleurs avait une intrigue un peu similaire à Führer Apache. Mais donc là, à cette époque-là, il l'avait dit Aldrich, on était en 1954 avec Bronco Apache, il était trop en avance sur son temps, puisque la vague de western pro-indien, elle est arrivée dans les années 70. Et avec Führer Apache, il a pas voulu se couler forcément dans le moule, et il a eu aussi des problèmes. Donc voilà,
C'est amusant parce que quand on regarde, excuse-moi, vas-y Stéphane.
Il y a eu des problèmes de prod aussi sur le film, puisqu'apparemment entre lui et Burt Lancaster, il y a eu des frictions, mais on va dire des visions différentes du film, puisque
Parce que Burt Lancaster était producteur, comme il était souvent d'ailleurs sur ses films, quoi. Et alors le truc d'Aldrich aussi, c'est quand même c'est quelqu'un qui a toujours travaillé au sein du système hollywoodien, mais qui a essayé de gagner son indépendance constamment à l'intérieur de ces systèmes, sans jamais se reposer sur son laurier. En 55, quand il a le succès dans Quatrième Vitesse, qui est un très gros succès, il en profite pour créer sa boîte de prod pour pouvoir faire ses films. En 67, avec Les 12 Salopards, qui est un succès, mais un carton atomique au niveau mondial, quoi, de l'équivalent d'un blockbuster Marvel à notre époque. Là, il fonde son studio à cette époque. Et les films qu'il va faire par la suite, comme Führer Apache, vont à chaque fois lui créer des problèmes qui font qu'il va finir par fermer ce studio. Donc c'est quelqu'un qui a toujours essayé de gagner son indépendance, mais sans se renier, quoi. Et effectivement, alors avec Burt Lancaster sur le film, il y a eu des problèmes, et il y a eu c'est intéressant d'ailleurs, parce que le Blu-ray le propose, sur le Blu-ray il y a le montage d'Aldrich qui est exploité en DVD chez nous, hein, qu'on connaît tous, quoi, et le montage de Burt Lancaster qui avait remonté le film, qui est disponible uniquement en DVD, hein, sur l'édition vidéo qui nous est proposée.
Ah ouais.
Voilà, et qui est d'ailleurs
oui, il y a le Blu-ray plus DVD,
voilà,
et donc la version de Lancaster, elle est sur la partie DVD.
Voilà, elle est sur la partie DVD, elle est d'ailleurs présentée, enfin, qui explique un petit peu ces versions par notre ami Jérôme Ouibon, qui était déjà venu dans les podcasts de Capture Mag. Et il y a aussi une présentation de Jean-Pierre Donnet sur le film, ça. Et voilà, ces deux versions qui sont relativement assez proches, on va dire que celle de Lancaster atténue un petit peu, encore une fois, la violence et la dureté.
Ça, c'est la version américaine, par exemple,
du film d'Aldrich. La version de Lancaster. Alors, les deux versions ont été diffusées aux États-Unis. Il me semble qu'à différentes époques, il y en a une qui est devenue la version canon. Enfin, c'est assez. Il faudrait se replonger exactement dans ce qu'explique Jérôme Ouibon dans le DVD. Mais voilà, il y a par exemple, il y a une scène d'une femme violée qui va pour se suicider, qui est pas mal atténuée dans la version de Lancaster. On va dire qu'il a essayé de rendre le film un peu moins dur, mais ça reste quand même.
Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est sur Amazon, par exemple, c'est les commentaires des clients qui sont très partagés. Il y en a qui aiment beaucoup le film et d'autres qui disent que c'est un film anti-indien, Aldrich décevant.
Non, c'est faux.
Non, mais c'est marrant.
Enfin, il faut voir le film pour se rendre compte que c'est totalement.
Oui, j'imagine qu'il y a peut-être pas au niveau de Don Siegel, mais il y a quand même une logique un peu misanthrope chez...
Ouais, bah, enfin, il y a une. Moi, je pense que c'est pour essayer de se placer de son point de vue, et c'est ça dans tous ces films. Il y a cette manière de regarder l'être humain sans phare. Et quel qu'il soit. Et finalement, c'est l'opinion la moins raciste possible. Ça. C'est-à-dire de regarder tous les gens en les considérant comme des êtres humains avant tout. Quoi.
Dans leur faille.
Voilà, et dans leur faille. Et je pense que c'est même la meilleure manière de rendre hommage à un peuple qui a été opprimé, spolié, comme c'était le cas des Indiens d'Amérique du Nord, en les regardant tels qu'ils étaient. Quoi. Il les montre aussi, on le voit dans Führer Apache, il les montre aussi comme des grands guerriers, et justement, il essaie de montrer leur point de vue, qu'ils ont une autre vision du monde que les soldats américains auxquels ils sont opposés. C'est, enfin, à aucun moment il y a du racisme là-dedans. Je pense que, je termine là-dessus, je pense que ceux qui voient du racisme là-dedans sont ceux qui ne supportent pas de voir des Indiens commettre des actes répréhensibles et qui voudraient les voir comme des bons sauvages rousseauistes qu'ils ne sont pas et que personne n'a jamais été de toute manière.
Mais alors attends, le truc c'est que pour toi, parce que là t'as beaucoup parlé de la polémique, t'as beaucoup parlé de tout ce qui est, la thématique du film à proprement
parler.
Parce
que c'est un film radical, voilà, hein, qui donc déclenche des polémiques.
Mais pourquoi ? Parce que tu m'as dit que c'était un des meilleurs westerns pour toi. Un des plus grands westerns. Mais dans cette logique de western pur, pourquoi ?
Un des plus grands westerns des années 70, je disais.
D'accord, hein.
Ouais. Et je disais ça.
Ça restreint déjà, quand même.
Et je disais ça justement parce que ça offre une. Si tu veux avoir une image du western américain des années 70, je parlais tout à l'heure de pro-indien, mais t'as aussi un côté très lyrique et très panthéiste, tu vois, que tu as dans José Wells, que t'as dans Jeremiah Johnson, et que là, tu n'as pas, quoi. C'est un western basé sur l'humain, et je te dis qu'il le montre à nu, quoi, à vif. Sans prendre aucune précaution, sans ménager son spectateur, et que finalement, à l'intérieur de cette décennie-là, c'est très rare d'avoir. Je crois que c'est quasiment le seul exemple. Quoi. Il y avait de l'autre côté, mais alors qui lui était vraiment pro-indien pour le coup, qui montrait les soldats américains comme des barbares finis. Il y avait Soldat Bleu, tu vois, qui était très radical aussi. Quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un western qui dénote.
Little Big Man, il y a eu plein de.
Ouais, mais Little Big Man, c'est pareil, c'est un film assez romantique, tu vois, tout ça. C'est pas Soldat Bleu. Il y a quelques scènes de violence parce que c'était dans l'air de l'époque, et c'est Arthur Penn, tu vois, tout ça. Mais c'est quand même un film. Comment dire, un grand film romanesque, tu vois, c'est une grande fresque romanesque, Little Big Man. Là, pas du tout, c'est comme le sait le faire Aldrich, c'est très sec, c'est très.
Et au niveau de la pure forme de réalisation.
Ouais, c'est Aldrich, justement, je parlais de sécheresse, moi je veux pas spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, mais le plan final, en gros, c'est un arrêt sur image qui est superbe, quoi, je veux pas dire ce que ça raconte, les gens verront, mais voilà, c'est ça a quand même pas mal l'esthétique des années 70, il y a quelques zoom, il y a quelques... mais ça, c'est... Aldrich aussi, quelqu'un qui a tout le temps su se remettre en cause, travailler son style. C'est quelqu'un qui a été précurseur. Avec un autre western comme Vera Cruz, avec Burt Lancaster et Gary Cooper, Vera Cruz, c'est 1954. C'est le premier western qui préfigure le western italien. Parce qu'en 54, le western italien, il n'existe pas. Et même des gens comme Sergio Leone le diront après que Vera Cruz a été un film essentiel, quoi. C'est un film qui préfigurait vraiment toute cette esthétique de cet univers mexicain, l'esthétique crade, réaliste des cowboys, tout ça, cette vision un peu crue et sans phare de l'Ouest américain. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait les choses dans son coin sans la ramener. Tout en essayant de garder son indépendance, comme je disais, mais qui, mine de rien, a été souvent en porte-à-faux avec son époque, qu'il soit précurseur ou, comme je disais, un petit peu anachronique, mais tout simplement parce que c'était un cinéaste libre et qui entendait faire ce qu'il voulait. Quoi. Voilà. Très grand cinéaste, Robert Aldrich. Enfin, je sais pas,
on pourrait en faire un Captain Mag
clairement, complet. Les jeunes auditeurs qui n'ont pas vu, j'ai dit Bronco Apache, Vera Cruz en quatrième vitesse, Le Grand Couteau, Attaque.
Dirty Dozen.
Attaque, qui est un des plus grands films de guerre jamais tourné. Enfin, voilà, il y en a une pelletée. C'est un très, très grand cinéaste. Et si vous n'avez pas vu Führer Apache, je vous le recommande.
Voilà, alors Führer Apache, c'est facile. Il est sorti depuis deux jours. Il est disponible sur nos sites de commande préférés.
Voire en magasin.
Voire en magasin, au prix de 19,99€. un Blu-ray plus un DVD, un Blu-ray restauré, une version intégrale restaurée.
Qui a été restaurée et qui était sortie en salle en 2013 d'ailleurs, hein, en D'accord. France.
Et puis il y a une version DVD un tout petit peu moins chère, juste DVD pour ceux qui n'ont pas de Blu-ray. Voilà. Bon, bah très bien, merci beaucoup, monsieur Bordas.
De rien, mon cher David.
Intéressant. Bon, bah on va s'arrêter là. C'est un bon gros capture mag hebdo. Hein. Vous étiez que deux, mais vous aviez des choses à dire. Hein.
La semaine prochaine, on revient avec un invité.
Ben oui. La semaine prochaine, voilà. Vous avez un invité de marque, le réalisateur Eric Valette,
voilà.
Qui va vous parler de son nouveau film et aussi de sa carrière, enfin de ses différents films.
Le serpent aux 1000 coupures qui sort le 5 avril.
Oui, et il sort le 5 avril et je vous recommande d'aller le voir parce que
tout à fait.
C'est très très bien. C'est du film noir, du polar bien noir, bien noir, avec des noirs. Non, pas enfin, n'importe quoi.
Laisse tomber.
Voilà. Mais je suis fatigué, il est tard. Hein voilà. Bon, eh bien, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour ce long numéro de Capture Max. Ce sera le 18, je crois. Hein.
Épisode 18.
Épisode 18. Déjà. Sans compter tous les hebdos. Enfin, c'est incroyable.
Que
quoi.
De choses entre nous, David.
Donc, si vous voulez, pour ceux qui découvrent, il faut absolument aller sur capturemag.net pour lire les articles, écouter les autres podcasts. Et puis, il faut nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Ça, c'est très important. 5 étoiles, vous votez pour Capture Mag, pour votre podcast préféré. Comme ça, il remonte dans les charts et il apparaît comme le podcast phare du cinéma français.
Le meilleur,
avec les meilleurs journalistes qui se déplacent de l'autre bout de la France pour venir
avec
nous parler.
Ernest Bordeaux.
Voilà, et qu'est-ce que je vais ajouter d'autre
Vous êtes
sur Twitter. Vous êtes sur Twitter.
Non, moi non.
Pas Ernest Bordeaux.
Je refuse.
Il est sur Facebook, Ernest Bordeaux. Mais par contre, toi, tu es...
Ça, il est sur Facebook, Ernest Bordeaux.
Ouais. Ça, on le voit, il me tague sans arrêt. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, allez au cinéma.
Salut, David.
Salut, David, au revoir.